pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Le bilan carbone, un festival, c'est forcément négatif. Parce qu'on pourrait rester chez soi tranquillement, à dormir, voire à suicider. Là, on serait sûr d'avoir un bilan carbone plat ou le plus neutre possible. Mais là, non seulement on se déplace, mais on invite des gens à se déplacer, parfois en venant de très loin. Les artistes, on les incite à traverser l'Atlantique, voire le Pacifique, l'Himalaya, puis ceux qui viennent de Corée, tout ça pour venir jouer. Donc forcément, le bilan, il est pas très bon. Alors après, ce bilan, il faudra le diviser par 20 000. Hein.
Puis par le bonheur que ça procure à
et
tout le monde.
Bonheur, voilà, le bonheur, voilà.
Mais il a raison, Pascal Robert, éternel président, cofondateur de Radio Béton en 1984, cofondateur du festival Au Quart de Tour en 86. Si toute l'humanité se suicidait, eh ben ça allégerait singulièrement son bilan carbone. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off pour le troisième épisode de notre saga Au Carbone. Calcul du bilan carbone de l'édition 2019 du festival Au Quart de Tour organisé par Radio Béton à Tours, Indre-et-Loire, région centre. Au Quart de Tour, plus de 30 groupes pendant 5 jours d'une incroyable bamboche pour seulement 30 euros les 5 jours et pour un bilan carbone de 172 tonnes de CO2. Bon, ça a l'air beaucoup comme ça, mais en fait, ça va. Mais c'est un bilan qu'on pourrait encore considérablement réduire si nous, les festivaliers, nous qui habitons à Tours, à côté du festival, si nous prenions plutôt le tram ou le vélo et pas la voiture pour aller au festoche. Et ça, on va aujourd'hui s'en rendre compte avec Val, consultant en environnement, responsable du calcul, et avec notre ami Steph. Les deux formant ce duo qui, lors de cette édition 2019 d'Au Quart de Tour, a questionné les festivaliers pour connaître leurs moyens de locomotion. Et pas pour mettre la honte et culpabiliser les gens, c'est juste pour savoir. Résultat, en 5 jours de festival Au Quart, Steph et Val ont sondé près de 2000 festivaliers sur presque 19 000. Soit environ 10% de la population du festival, un échantillon plus que représentatif. On voit ça tout de suite. Rendez-vous à l'entrée de l'édition Au Quart de Tour 2019.
Bonjour, bonjour.
Je fais une enquête dans le cadre de l'opération Au Carbone pour le festival d'Au Quart, ce qui est le but de faire un bilan carbone du festival. Donc on regarde d'où viennent aussi les festivaliers pour voir l'impact du transport des festivaliers sur le bilan carbone du festival. Alors je voulais vous poser quelques questions sur votre transport, si ça ne vous dérange pas.
Avec plaisir.
Alors je vais commencer par ici. Vous êtes venus ensemble déjà ?
Ouais.
Donc vous êtes venus tous les trois comment ?
On est venus en voiture, mais on s'est garé un petit peu plus loin pour éviter de se garer sur le parking.
Et vous êtes venus d'où ?
Centre-ville.
C'est quoi comme voiture ? C'est une essence diesel ?
Diesel.
Beaucoup de chevaux ? 4 ou 5 ?
C'est une Peugeot 306 à l'ancienne.
5, je veux dire. Ok, je vous remercie. Et ensuite, les suivants, vous, les gars, comment ?
Transport en commun.
Tout le monde en tram ?
Quelqu'un est venu de Paris. Hein.
Mais t'es venu pour le festival ou t'es... Ouais, d'accord.
Venu en TGV.
D'accord. En TGV, il est venu.
Et aussi pour voir mes amis qui...
Ben, bien sûr, c'est... l'un sert à l'autre. Hein. Et ensuite, 4 personnes au tramway. Voilà. Bah, je vous remercie beaucoup.
Ouais. C'est dans l'optique d'organiser des bus, c'est ça ?
Si on a des bonbons, ça va nous permettre de donner des arguments pour pousser le transport en commun, pour pousser vraiment le transport des festivaliers vers le transport en commun plutôt qu'en voiture.
J'organise des bus en départ de Paris, par exemple, pour un festival en Belgique, pour Rampage. Et on organise tous les ans 5 bus. On a monté une association pour ça, Green Motion Paris. C'est à la fois écolo et puis en même temps, ça évite aux festivaliers de prendre des risques avec leur voiture. Et puis en même temps, on peut faire des trajets à moins cher, justement, pour aller à Paris et tout ça, quoi. Enfin, de Paris à Anvers, en Belgique. On compte certainement regrouper le truc. Je voulais voir avec la SNCF pour essayer de monter une branche, en fait. Une branche qui permettrait de défrayer un train pour n'importe quel festival un peu partout en France. Et puis essayer de fédérer un petit peu aussi, faciliter la tâche des transports, tout ça, quoi.
Alors avec la libéralisation de la SNCF, enfin du chemin de fer, c'est peut-être pas la SNCF qu'il faut aller voir.
La SNCF, pour se tirer une balle dans le pied toute seule, pour détruire le service public, pour le marchandiser, a développé des bus, une compagnie de bus qui se fait concurrence à elle-même en fait. Donc résultat, les bus sont pas rentables, les trains sont pas rentables, et puis après ils te disent ouais, bah ça marche pas, faut privatiser.
C'est pour ça que nous on passe par des petites compagnies privées en fait, justement, pour permettre déjà d'avoir des prix beaucoup plus accessibles pour les festivaliers. Puis ça nous permet, nous aussi, d'avoir une petite communauté, monter tous ensemble entre amis. On monte à 250 personnes à Anvers, c'est plutôt pas mal.
Oui, de toute façon, ça crée une ambiance dans le bus déjà pour y aller. C'est une bonne initiative. Hein. Dans notre cas, des gens qui viennent de Paris, j'en vois pas beaucoup. Autrement, ils sont peut-être déjà là et par opportunité, ils viennent. Vraiment du direct Paris comme lui, là, j'en ai pas eu beaucoup. On en a pas. C'est peut-être le premier.
Ok, merci. Amusez-vous.
Allez, bonne soirée, bon festival.
Ah oui, je fais un questionnaire. Bon, il y a les festivaliers, bien sûr, il y a les artistes, bien sûr, et il y a aussi toutes les personnes qui s'occupent du festival. Donc, comme un bilan carbone se veut le plus exhaustif possible, même sur des impacts mineurs, on va dire, je me dois aussi d'interroger les gens qui participent à l'organisation du festival. Donc, c'est trois questions très simples. Hein, c'est comment vous êtes venu ici?
Tu me vouvoies maintenant ?
Non, je donne le truc. Donc, comment t'es venu ici, Dia ?
Je suis venu en vélo. Et des fois, à Au Quart de Tour, il m'arrive de boire de la bière, donc d'être un peu saoul. Et je me dis que c'est pas bien de prendre la voiture. D'abord parce que c'est dangereux, et puis que tu risques de perdre ton permis en plus, mais surtout parce que c'est dangereux.
Alors donc, quand tu viens en vélo, ben, je mets vélo, et puis je mets une personne, et puis c'est tout. Je ne m'intéresse pas à la ville d'où tu viens parce que bon, le vélo n'a pas d'impact, zéro impact. Et ensuite, j'ai une question supplémentaire quand les gens viennent en véhicule. Donc, je leur demande la motorisation et la puissance, d'où ils viennent et à combien ils sont venus.
Quel accueil des festivaliers ?
Oh, les festivaliers, ils sont super cool. De toute façon, les festivaliers d'Ocar, ils sont super cool.
C'est vrai que c'est du bon public, gentil, élevé au bon grain par Radio Béton. Bon, allez, direction les entrées. On va aller voir les gens qui viennent faire la fête ce soir.
Toujours à l'entrée de l'édition 2019 du Festival Au Quart de Tour, c'est un moment particulier qui nous attend maintenant car nous allons rejoindre Stéphanie Attégan qui sondait les festivaliers sur leurs moyens de transport. Or, notre ami Steph nous a brutalement quittés en ce printemps 2022. Mais toi et ton sourire, vous êtes encore là Steph, dans nos cœurs, nos têtes et maintenant dans le poste de télégraphie sans fil.
Salut Steph.
Salut.
C'est toi qui files un coup de main à Val pour faire ces fameux questionnaires auprès des festivaliers pour connaître leurs moyens de locomotion. Donc vous avez fait une première volée de 250 personnes hier soir aux entrées d'Au Quart de Tour.
Moi 185. Non, c'était très bien, les gens sont au courant. De par l'opération carbone, a priori, Radio Béton, ça fonctionne. Donc c'était disponible. Maintenant, ouais, la seule chose, c'est on a l'impression qu'ils se sentent un petit peu coupables de venir en voiture et d'être tout seul. Donc il n'y a pas de jugement. C'est ce qu'on leur explique, quoi. C'est un questionnaire, c'est pour savoir. Et la météo. Je pense que le fait que voilà, il pleuve. Là, ce soir, il y aura peut-être plus de vélos.
C'est marrant ce que tu dis, parce que vous, évidemment, vous n'êtes pas là pour juger les pratiques des gens.
Absolument pas.
Et c'est drôle, il y a des expressions de culpabilité, parce que, ah merde, je suis venu en voiture, c'est pas écolo.
Voilà, je suis venu en voiture, oui, je viens du boulot. Les gens se sentent obligés à la limite de... Mais non, il n'y a rien, c'est juste un questionnaire.
Et alors, les gens à questionner, tu fais ça comment, à l'arrache? Tu repères les têtes qui ont l'air sympas? Ça peut fausser l'étude.
Non, absolument pas, en fait, je me suis mis au début de l'entrée, Val est plus dans le fond et tous les gens qui viennent, les jeunes, c'est pas du tout à la tête des clients.
Donc c'est pas trop faussé.
Non, faut que ce soit le plus large possible. Donc c'est tout le monde. Enfin, tous ceux que j'arrive à attraper.
Oui, est-ce qu'il y en a qui veulent pas?
Absolument pas. Non. J'ai pas eu de. Non. Aucun refus.
Sur 180 personnes, à chaque fois, ça a été 180, oui.
Oui.
Donc c'est marrant parce que rien que ça, c'est un indicateur quand même. Enfin, c'est-à-dire que les gens se sentent concernés, ils ont envie de parler de ça.
C'est ça. Et puis ils en ont entendu parler par...
On l'a dit dans le poste.
Voilà, l'opération au carbone. Ah oui, j'en ai entendu parler. Donc ils savent déjà que, d'où ça vient et... C'est parfait.
On a un chouette festival, donc c'est normal qu'on ait des chouettes festivaliers. Voilà. Ils sont gentils, les gens.
Ils sont très gentils. Et on recommence ce soir.
On y va. Alors, nous voilà aux entrées du festival Au Quart de Tour, 34e édition, avec Steph, qui est donc avec son questionnaire. Et là, il y a trois jeunes filles qui viennent de sortir du questionnaire. Steph, ça a duré longtemps ?
Non, ça dure une minute, même
ça
pas.
C'est même pas mal. En plus.
Non, pas du tout.
Et alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces trois jeunes filles ?
Donc, elles viennent d'Angers, elles étaient cinq dans la voiture. Bonsoir. Bonsoir, c'est pour l'opération Carbone du festival. Oui. Je voudrais savoir avec quel moyen de locomotion vous êtes venue.
En tramway.
Donc toute seule. Et vous venez d'où?
De Tours.
De Tours. C'est parfait, merci. Bonne soirée.
Ah oui, ça va vite, des fois.
Ça va super vite. Bonsoir, c'est pour l'opération Carbone du festival. Vous êtes venu avec quel moyen de locomotion?
Avec ma voiture, je sors du boulot.
D'accord. C'est une essence ou une diesel?
C'est une diesel.
Diesel. Vous connaissez la puissance fiscale?
Ça doit être 7, celle-ci.
7. Vous étiez tout seul dans la voiture ou accompagné? Et vous venez d'où?
En fait, j'habite Ballon, mais là, je viens de New York.
Voilà. C'est parfait, merci. Okay, bonne soirée.
Et puis pas de refus, tout le monde veut bien répondre.
Non, il n'y a vraiment aucun refus, les gens sont... Mais il y en a peut-être qui sont un peu surpris, mais ils se laissent... Mais les gens, ils sont cool, hein.
Tu leur dis pas opération au carbone? Comment tu dis, toi? C'est plus explicite.
C'est bilan carbone du festival, et puis je m'embrouille, alors j'ai maintenant opération au carbone.
C'est plus explicite, hein, bilan carbone aussi, qu'un jeu de mots vaseux.
Voilà, tout à fait. Et puis après, si... ou ils connaissent et ils me demandent pas, ou ils connaissent pas et ils me demandent de quoi il s'agit, mais...
Il y a quelqu'un. Salut.
Salut, ça va?
C'est pour l'opération au carbone du festival.
Okay, bah, je suis en vélo, j'habite à côté, ça tombe bien.
À côté, c'est-à-dire?
Haut de Lyon.
Eh ben, c'est parfait, merci. Bonne soirée.
Okay, bonne soirée.
Salut. Salut.
Et il est où, Val? Je le vois pas.
Normalement, il interroge les festivaliers qui sont dehors, qui attendent.
D'accord.
Voilà, une dame qui arrive.
C'est pour l'opération au carbone. Vous êtes venu avec quel moyen de locomotion?
Voiture.
C'est une essence ou un diesel?
Essence.
Vous connaissez la puissance fiscale?
5 chevaux.
5 chevaux. Vous étiez toute seule ou accompagnée?
Toute seule.
Vous venez d'où?
De Saint-Cyr.
Parfait, merci.
Vous en prie.
Au festival.
Merci.
Je vais voir Val comment il s'en tire. Toi, tu t'en tires à merveille. Hein. Les gens t'adorent. Hein.
C'est ça. Je leur fais un grand sourire. Et puis voilà. Et puis bon, c'est la fête. Hein, donc.
Jacques-Jean.
Ah bah voilà.
Oui, c'est un pote.
C'est un pote.
Coucou mon Jacques-Jean. Ça va?
Hey,
alors on fait l'opération au carbone.
Et c'est quoi ça?
On calcule le bilan carbone de cette 34e édition du festival au quart de tour. Steph a un petit questionnaire pour toi.
Alors oui, c'est très vite. Avec quel moyen de locomotion t'es venu?
Le tram.
Le tram, d'accord. Et tu viens d'où?
Beaujardin.
Beaujardin, parfait. Bah, c'est tout, merci.
C'est tout. Hein,
t'as vu? Même pas mal, hein.
Peut-être rentrer à pied. Là, vous voulez pas savoir comment on rentre, non?
Il y a le bilan carbone de l'usure des baskets, hein, quand même. Hein.
Voilà, c'est ça. Va peut-être falloir y penser.
Les vieilles baskets, parce que hier, c'était déjà gadouilleux, alors... Non, ouais, aujourd'hui ça va. Demain, il paraît qu'ils annoncent du vent à gogo.
Non, c'est pas vrai. C'est une fake news.
Faut pas écouter. Ça devait être France Intox.
Bon, je te laisse bosser parce que je sens que je vais faire peur aux gens.
Ouais, voilà, allez, hein.
Ah, et bah, je te cherchais. Bah, Steph fait des merveilles aux entrées. Hein.
Ah oui.
Les gens l'adorent.
Elle est remarquable. Elle a un sens de la com, elle est souriante, donc c'est très facile pour compléter tous les questionnaires.
Alors elle est aux entrées et toi, tu es plutôt en train d'aller discuter avec les gens qui sont assis dans l'herbe à l'entrée du festival.
Bah oui, puisqu'ils vont rentrer dans le festival à un moment ou un autre, donc ouais. Je les interroge aussi pour voir d'où est-ce qu'ils viennent, puisque en fait la queue est pas très grande, donc plutôt que perdre du temps à attendre que des gens viennent, je vais tout de suite taper où est-ce qu'il y a un petit réservoir de personnes à interroger.
Ouais, mais est-ce que ça fausse pas scientifiquement l'étude? Parce que
est-ce qu'ils vont rentrer? Encore, ils resteraient là. Bon, bah non.
Je me dis, voilà, c'est quand même une certaine population, des gens qui sont assis en rond. Comme ça, boire des coups, plutôt jeunes, tout ça, ils ont plutôt le même profil sociologique.
C'est le festival aussi, ouais. Hein, donc on va pas commencer à changer, je sais, le profil sociologique du festival, quoi, on va dire. Là-dessus, non, moi j'ai pas de soucis là-dessus, c'est, ils vont rentrer un moment ou un autre, donc ils discutent, ils se font l'apéro, ils savent qu'ils sont venus avec des bouteilles, donc ils n'ont pas le droit de rentrer. À chaque fois, je leur dis de faire gaffe avec leurs déchets, tout bien rangé. D'ailleurs, il y a un conteneur vert qui est placé là, ce qui est une très très bonne initiative. Voilà.
Bonjour,
je fais une enquête dans le cadre de Au Carbone, et donc je fais une enquête auprès des festivaliers pour connaître donc d'où est...
Je me rends compte que tous ces salauds viennent en bagnole.
Alors vous en avez déjà entendu parler de l'opération Au Carbone?
Tout à l'heure, à la radio, parce que j'aime bien écouter béton, moi.
C'est la meilleure.
J'ai commencé, vous êtes venus ensemble?
Non.
Non, d'accord. Bah, j'ai commencé avec madame. Comment êtes-vous venue, s'il vous plaît?
En voiture. Hein.
C'est une diesel, une essence?
Essence.
Combien de chevaux fiscaux?
7, je crois.
Toute seule?
Oui. Ouais. Mais j'arrive d'Amboise, hein, donc Amboise, c'est pas tellement facile.
Ah ben, on s'arrange comme on peut. C'est... Vous avez...
Je commence à 6h30 et...
Soyez là.
Mal à gérer et la soirée et mon boulot demain.
Je partager, chacun vient.
On a des impératifs, des fois dans la vie, et moi je suis 100% justement écologique, voire 200. Et moi je trouve qu'on devrait tous arrêter tout de suite toutes nos bêtises et qu'on se mette tous ensemble à faire le propre. Aujourd'hui j'ai appris qu'apparemment il y a un milliardaire qui aurait le projet d'affréter un bateau pour nettoyer la Méditerranée.
Ça c'est des conneries, on est encore dans l'économie réparatrice, c'est-à-dire l'économie qui donne, bonne conscience. Pareil, on ne se pose toujours pas la question de la cause, on tape sur les effets. Le mec il est milliardaire, ça se trouve, il a une usine qui produit du plastique, t'en sais rien, il a des actions qui sont dans le domaine du plastique et tout ça. Non, ça c'est n'importe quoi. Et en plus, le pire, c'est qu'ils imposent des solutions qui vont ensuite financer en partie parfois sur des fonds publics, parce qu'il y a des déductions liées au mécénat et toutes ces conneries. Ce qui fait qu'ils orientent sans forcément savoir au mieux qu'est-ce qu'il faut faire. Et dans eux, leur idée, non, ça, ce genre d'économie comme ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est des mecs qui se font plaisir, c'est du greenwashing, non, c'est des conneries.
Mais c'est pour ça que je dis, il faudrait que tous sur la planète, on arrête tous, tout de suite, aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on dit que c'est pas possible, forcément ça va encore durer.
C'est pas possible de demander à tous, parce qu'en ce cas-là, on tombe dans un écofascisme ou des choses comme ça, les Khmers verts, et donc, non, il y a d'autres solutions à utiliser.
C'est bonne parole, je vous souhaite bonne continuation.
Bah ouais, et puis bon festival.
On l'a déjà dit, cette série d'émissions Opération au carbone t'est dédiée, Stéphanie. Pas seulement parce que t'as sondé plus d'un millier de festivaliers d'Ocar. Cette saga au carbone, Steph, on te la dédie avec Val parce que tu nous manques depuis ce jour du printemps 2022 où t'es parti. Et tel que je te connais, en véritable écolo de terrain, je me demande bien si tu t'es pas métamorphosé en mère nourricière d'un arbre. Ça serait bien ton genre, toi qui faisais de vraies choses concrètes sur l'écologie, avec ton rire et une immense modestie. L'écologie, Steph, je t'ai pas beaucoup entendu en parler. Mais je t'ai vu en faire. Alors petit aparté, puisque ce moment de l'émission t'est consacré, camarade. T'aimais bien faire la fête, Steph, et t'adorais toutes sortes de musiques, et surtout le reggae. Tu sais quoi ? Je me souviendrai toujours d'un soir de teuf où tu m'as fait crever de rire quand, poing sur les hanches, tu as soudainement très aristocratiquement déclaré « Non mais vraiment, je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas le reggae. » J'en rigole encore, mais même s'il y a du mauvais reggae en vrai. Je te donnerai toujours raison sur ce point, Steph, et sur bien d'autres, et ce jusqu'à la fin des temps. Alors le titre qui suit est pour toi, meuf. Je sais que ça te plaira. C'est un bon vieux Steel Pulse que je vais me savourer en pensant à toi et en me fumant un bon petit stick d'une herbe locale, certainement cultivée en permaculture.
Down, down.
Max Plaff, Steel Pulse, spéciale dédicace à toi Steph, vaillante cheville ouvrière d'eau carbone, calcul du bilan carbone du festival au quart de tour 2019 réalisé par notre ami Val. Et pour la suite de l'opération, ne vous y trompez pas, on ne vous propose ni de la radio de merde, ni de la radio de chiottes, et pourtant, on va maintenant parler du véritable bonheur que sont des toilettes sèches sur un festival ou tout autre endroit public et même privé. Les toilettes sèches, c'est écolo, c'est recyclable et ça ne pue pas. Val, on continue notre exploration des rouages de la machinerie au quart de tour sur cette 34e édition. On a rencontré plein de gens. Et là, encore une chouette rencontre aujourd'hui avec Charlie. Salut Charlie.
Salut.
Toi, tu es un des membres de l'association La Cacaravane de Tours. Chiottes sèches, comme on dit communément, machin. C'est quoi le terme technique ?
Chiottes sèches, ça marche aussi. Non. Le terme technique, c'est les toilettes sèches.
D'abord un témoignage de festivalier, même si c'était pas toi ou la Cacaravane de Tours, qui est une association relativement récente. Avant, on a connu la Foire du Trône. Et alors, simple témoignage de festivalier. Moi, j'ai connu il y a plus de 20 ans, sur l'île au Car, les chiottes chimiques, qui ont été le cauchemar de tout le monde, particulièrement des filles. C'était un truc horrible où on pouvait plus mettre les pieds au bout de trois quarts d'heure, ou alors quand on y allait, on vomissait. C'était terrible. Et puis, il y a eu un jour un truc magique, quoi. C'est les premières chiottes sèches qui sont arrivées sur le festival Le Quart de Tour. Alors, il y a eu quelques réticences quand même. Des gens, la sueur, le machin, les gens n'étaient pas encore au jus. Donc, il y a eu peut-être un réflexe culturel à adopter pour certains d'entre eux. Mais très, très vite, c'était un peu le bonheur pour tout le monde. Quel bonheur que de pouvoir accéder à un lieu qui pue pas, où t'as pas l'impression que ce que tu fais, c'est sale. Merci d'être là. Merci aux promoteurs des toilettes sèches parce que ça change la vie des festivaliers et particulièrement des festivalières parce qu'encore les garçons qui, comme chacun sait, sont sales, peuvent pisser n'importe où. Tout ça, c'est plus compliqué pour les filles. Et donc voilà, merci à toi et à la corporation que tu représentes d'avoir apporté tant de confort sur ces trucs de rock'n'roll où on écoute du bruit, où on boit de la bière et qu'au bout d'un moment, évidemment, il faut l'évacuer.
Ouais, je partage un peu l'analyse. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que partout, tous les événements qu'on couvre avec des toilettes sèches et que les gens connaissent pas et qu'ils ont un peu des réticences et voilà, s'ils fonctionnaient avec le chimique avant, c'est clair que le calcul est vite fait, notamment au niveau de l'odeur. C'est vraiment le truc, le point positif qui ressort à chaque fois, c'est les gens sont étonnés, ça sent pas. Et c'est vrai que pour ça marche très bien. Après, ce qu'on essaie de faire un maximum sur les événements qu'on couvre, quand on demande une maintenance, c'est de tenir les toilettes propres. Donc ça nécessite juste une petite surveillance. Et puis quand les lunettes sont propres, elles sont respectées et puis ça roule, quoi. Et donc tu parlais tout à l'heure des garçons qui sont sales et que les filles elles sont pas sales. J'ai pas tout à fait la même expérience. En fait,
on va apprendre des choses chic.
Non, mais ce qu'il faut savoir c'est que sur les toilettes publiques, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à poser leurs fesses et s'asseoir, ce qui est compréhensible. Du coup, ça amène à des contorsions qui amènent à des pipis de travers et qui amènent à une escalade du n'importe quoi. Donc du coup, nous, on est là pour rassurer les gens. Ce qu'on a fait pour ça, c'est que dans chaque cabine, on a un petit spray avec du désinfectant pour aménager son assise et poser ses fesses sans crainte. Mais bon, il y a toujours des sketchs en festival. Ça fait partie du jeu. Et voilà.
Il y a encore des gens qui ne savent pas exactement comment ça marche. Comment ça marche ?
Le plus simplement du monde, en fait, les toilettes sèches, c'est un terme assez global. Plus précisément, nous, les toilettes qu'on utilise, c'est des toilettes à litière, parce que ça marche comme ça, on utilise une litière. Là, en l'occurrence, c'est du copeau de bois, parce que c'est ce qui est le plus pratique à utiliser. Ça peut être récupéré en scierie ou pas, ou acheté, ou voilà. Mais tout ce qui est matière sèche, végétale, ça convient très bien, quoi. Des feuilles mortes, de la paille broyée ou quelque chose comme ça. Bon voilà, le copeau de bois ça, ou la sciure, ça c'est beaucoup utilisé, vraiment pour le côté pratique, l'utilisation quoi, pour recouvrir, voilà. Ça marche comme ça, donc c'est une litière dans laquelle on fait pipi, caca, et puis on recouvre, ça pompe un peu le pipi, ça absorbe le caca et ça sent pas.
Alors, c'est ça le truc fabuleux, hein, si vous connaissez pas encore, mais c'est ça le truc de dingue, c'est que ça pue pas.
Non, on peut couvrir des événements sur des semaines entières, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, autour des toilettes, c'est souvent un lieu de rencontre et les gens, on peut voir qu'ils sont là sans souci et puis qu'ils passent la soirée, même des fois à côté du chiotte alors qu'il y a quelqu'un qui est à côté.
Voilà. Il y a quelques années de ça, alors je crois qu'à l'époque c'était la foire du trône qui était juste à côté du chapiteau de la Smala, là où on vend les crêpes. Et ben, la musique qui jouait sous les chapiteaux ne m'intéressait pas du tout et j'ai passé une soirée entière aux chiottes sèches parce que juste à côté il y a un sound system. Ouais. Quelqu'un avait installé un sound system dans les chiottes et j'ai passé une super soirée de chiottes. À Ocar, parce que c'était là qu'il y avait du bon son. Donc j'ai dansé entre les gens qui allaient et qui venaient, les uns pressés, les autres soulagés, qui partaient dans l'autre sens. Et donc c'est un lieu de vie.
Oui, c'est un lieu de vie. Et puis, au bout de quelques shops, c'est un peu le passage obligé pour tout le monde. En festival, ça reste très convivial. Après, on couvre beaucoup d'événements qui sont des événements sportifs où il n'y a pas la même ambiance et la convivialité est moins présente, les réticences aussi, mais finalement partout là depuis la petite dizaine d'années où on fonctionne, partout où on va les gens sont convaincus. Là récemment on a fait par exemple le HH7, tournoi de rugby à 7, c'est la première fois qu'ils demandaient des toilettes sèches, ils étaient au chimique avant. Il y avait des réticences apparemment, mais il y a une fille qui s'occupait de l'environnement qui a poussé un peu pour ça. Et résultat, tout le monde était très content, quoi.
Et le truc, après, je vais laisser Val prendre la main parce que lui, il va te demander des histoires de quantité, de matériaux qui rentrent, qui sortent, tout ça. Parce que c'est lui le scientifique de la bande. Moi, je suis l'animateur rigolo qui essaye de l'être, en tout cas. Non, mais justement, à propos de rigolo, il y a un truc aussi que j'ai toujours bien apprécié tant avec la Foire du Trône qu'avec la cacaravane de Tours. C'est que c'est encore mieux avec une petite pointe d'humour. Je trouve que ça participe à l'accueil je trouve ça assez malicieux et dédramatisé, si j'ose dire.
Notre activité tourne autour des toilettes, quoi, donc on va pas en plus se mettre...
Faire un truc dramatique.
Faire un truc dramatique, et puis voilà, on est surtout là pour dédramatiser le truc. Et puis avec des blagues de merde, pour ainsi dire, il y en a à l'appel. Donc voilà, c'était tout trouvé, quoi.
Val, à toi de jouer. Partant d'une base où on reçoit sur ce site-là environ, disons, 3000 personnes en moyenne par soir, en gros.
En fait, oui, c'est un produit simple. Hein. Ce que tu vas me dire, c'est ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? De la sciure et des copeaux.
Déjà, on fait rentrer combien de matière ? En kilos, en mètres cubes, la sciure Vous dites là, ce soir, on va avoir 3000 personnes. Donc vous faites rentrer combien de... Il n'y a que du copeau de bois ?
Ce qu'on peut quantifier au niveau des cabines, c'est qu'on fonctionne avec des poubelles 80 litres. Là, actuellement, sur l'installation, on en a 9 et par soir, on en remplit 18. Après, c'est pas rempli à ras bord, mais c'est bien rempli, donc on peut compter 50-60 litres de litière à traiter après en compostage. Alors, la suite des événements, c'est ça, c'est que... Je ne sais plus si on n'a pas mis ça sur nos petites affiches, c'est que simplement notre manutention elle remplace la chasse d'eau. C'est-à-dire que la chasse d'eau, elle est là pour véhiculer ce qu'on fait aux toilettes jusqu'à la station d'épuration. Là ici on n'est pas raccordé, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre pour une semaine ou pour. Il y a le choix du chimique ou alors il y a le choix du toilette sèche. Dans tous les cas, il y a une manutention qui est obligatoire derrière. On prend nos petits bras, on soulève tout ça et puis on va gérer un compost derrière.
Vous repartez plus lourd que vous êtes arrivé, quoi, en gros.
Ouais, c'est ça, ouais. On repart un peu plus lourd en général. Ouais.
Donc c'est vraiment un système. Intéressant, même relativement élégant, on peut le dire. Donc on part d'un sous-produit de l'industrie du bois, hein, de la sciure ou du copeau, sur lequel on va faire les choses les plus triviales, et qu'on va quand même réussir à manutentionner dans des conditions tout à fait satisfaisantes, et qui ensuite vont être épandues sur le sol.
Qu'est-ce que ça devient tout ça ?
Justement, c'est pas épandu... Il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Nous, ce qu'on en fait, c'est qu'on gère un compost derrière. La problématique sanitaire, elle est le risque de pollution des sols. Alors, le risque de pollution des sols, actuellement, comment ça se passe ? Pour éviter de polluer les sols, on évite d'amener une quantité trop importante dans un endroit donné. Donc on fait de l'épandage. C'est ce qui se passe dans les champs quand vous avez des camions, des tracteurs. Tout le monde voit bien ce que c'est et puis on s'en souvient bien aussi avec l'odeur. C'est-à-dire qu'ils épandent du lisier sur des grandes surfaces. En se disant, on ne va pas amener une trop grosse quantité de matière à un endroit donné. Du coup, la terre va bien se débrouiller avec le caca frais qu'on balance, quoi. Voilà, je schématise, mais en gros...
Ce qui sort du festival, ça s'appelle aussi du lisier ?
Non, nous on appelle ça des litières. Enfin, c'est de la litière, hein, c'est les besoins avec du copeau de bois. Et donc, ça, la première technique, c'est l'épandage. C'est pas du tout ce qu'on pratique. La deuxième technique, c'est la mise en compostage. Donc la mise en compostage, ça demande de faire un tas, en fait. Mais le problème de ça, c'est que si on fait un trop gros tas et que ce tas-là est trop liquide, il y a des risques d'infiltration au niveau des sols et donc de pollution des nappes, etc. Donc pour éviter ça, il y a des plateformes agréées qui existent sur dalles étanches, béton, etc. Nous, avec les quantités qu'on a à gérer, on ne fonctionne pas comme ça parce qu'on n'a pas des montagnes, ça représente des tas, on va dire, à échelle humaine. Du coup, pour être bien certain de pallier au risque d'infiltration, avant toute chose, on crée un bon lit de paille, de la matière sèche en quantité suffisante pour être bien certain que quand on va verser nos litières, le surplus de liquide, il va être épongé par ce qu'on a mis en dessous. Et donc, ça, pour que ça travaille bien, il faut que ça soit aussi en aérobie. Donc là, c'est un peu les termes techniques, mais en gros, il faut que ça reste à l'air libre. Et voilà, c'est comme ça que la nature fait bien les choses. Il faut imaginer, un sol de sous-bois en forêt où il y a les feuilles mortes de l'année d'avant qui travaillent comme ça, qui font l'humus et qui sont recouvertes des feuilles mortes. Voilà. Tout ça pour dire aussi, parce que souvent on entend « Ah ouais, mais c'est comme avant, on faisait un trou au fond du jardin et puis voilà quoi ». Les toilettes à l'ancienne, non, c'est pas du tout comme ça. Cette technique-là de creuser un trou dans le sol, faire caca, surtout c'est des trous qui font peut-être 2 mètres de fond, voilà, c'est la pire des solutions finalement au niveau sanitaire, parce que ce qui se passe, c'est que ça travaille pas bien comme il faut et ça finit par infiltrer les nappes et on concentre un peu tout dans un trou. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que ça soit un peu à l'air libre pour que ça travaille bien, et là dans le trou, ça fonctionne mal. Voilà. Et on a des échos aussi de festivaliers qui nous disent « Ah, nous, on a fait tel ou tel festival. Voilà comment ils fonctionnent. Ils prennent les pelleteuses, ils font une tranchée, ils font caca dedans et ils rebouchent. » Non, c'est pas ça des toilettes sèches. Voilà. Donc on a un peu cette éthique-là qui nous tient à cœur de défendre. Et voilà, on essaie de le faire. Ils peuvent faire bien. On le fait pas, peut-être pas tout le temps super bien, mais voilà.
Ces lieux de compostage, ils sont où ? C'est à vous ou c'est avec des agriculteurs ou c'est ici à la Gloriette ?
Là, on est avec un maraîcher qui fait partie de l'association, qui nous a pas mal aidé d'ailleurs sur les techniques de compostage et tout. Et lui, il avait déjà commencé une grande ligne de compost avec ses légumes, etc., qu'il a fini par nous laisser. On a remis de la paille et puis voilà. Du coup, maintenant, on gère ça là-dessus. Tout le monde nous dit « Ah, mais un maraîcher, alors il fait pousser ses légumes avec ?» Non. Parce que légalement, on n'a pas le droit. Mais de la manière dont on le fait, on sait qu'il n'y aurait pas de risque sanitaire. Parce que contrairement à l'épandage, pour en revenir à ce qu'on disait au début, on ne balance pas du caca frais, quoi. Une fois qu'on réutilise le produit du compost, c'est du terreau. Donc c'est de la terre. Le risque sanitaire n'existe plus, quoi. Le risque qu'il y a dans cette technique, c'est ce que j'expliquais à l'instant, c'est le risque de pollution des sols, auquel on est attentif. Voilà. Et le risque sanitaire, après, il n'existe pas si c'est bien fait. Si on a attendu une certaine période, quoi. Du coup, lui, il ne peut pas l'utiliser et il l'utilise pour ses plantations. Il a fait des haies tout autour de sa parcelle. Et puis voilà, ça retourne comme ça dans le cycle des choses.
Entre le moment où la litière utilisée sort du festival et le moment où ça devient un terreau qu'on peut utiliser en agriculture, il s'écoule combien de temps ? Ça ne se fait pas instantanément, même si on le laisse à l'air libre.
Non, il y a... Alors, il y a eu plein d'études, il y a des bouquins super intéressants à ce sujet.
La première question, c'était combien de temps, quoi ? Un an, 2 ans ?
Nous, en fait, là, on l'utilise au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, disons que le risque sanitaire, ce qui se trouve surtout dans les selles, parce que dans l'urine, en gros, il y a beaucoup moins de risques, il est vite écarté. Alors, il y a plein de trucs. Hein, tu peux retrouver des maladies dans les selles, des vers, voilà. D'après ce que j'avais lu, ce qui était le plus... résistance et certains œufs de certains vers que tu peux avoir dans les intestins, et eux ils peuvent résister 6 à 18 mois. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les bactéries qu'on a dans l'intestin et qui se retrouvent dans les selles et qui sont des pathogènes qui peuvent être problématiques, une fois qu'ils se retrouvent à l'air libre dans une litière et après dans un compost, ils sont confrontés à d'autres bactéries. Et là, ils ne sont plus du tout dans le milieu adéquat pour survivre. Et voilà, et la nature fait bien les choses, on va dire. Mais en général, c'est assez rapide à écarter le risque sanitaire.
La cacaravane de Tours, elle fonctionne partout. Là, tu reviens d'un anniversaire où tu es allé poser une toilette chaise. Enfin bon, voilà. Donc, vous devez quand même ramener des quantités quasiment quotidiennement. Et votre espace de maraîchage, là, il est suffisant pour le compostage ?
Oui, oui, oui. Mais alors après, le truc, c'est que ça marche par période. Là, ouais, en ce moment, pendant mai-juin, on est sollicité beaucoup parce que tout le monde veut les mêmes dates, etc. Mais après, le reste de l'année, c'est un peu le calme plat, quoi. Enfin, on a toujours des petits trucs, des petites dates à droite à gauche. Mais en termes de volume, ça représente pas des... Bah, tu vois la taille du barnum, là, on fera jamais ça. C'est plutôt la taille de la lignée de table, là.
Donc, alors, on voit pas la radio, mais ça fait quoi, 10 mètres de long sur 1 mètre de large, un truc comme ça?
Ouais, c'est ça. Donc
nous... hauteur, pareil, 1 mètre de hauteur, peut-être
Bah, disons qu'on gère une ligne de, on va dire, une 20 mètres de long pour être large sur 1 mètre de large. Enfin, disons que la ligne, elle fait plutôt 60 mètres et on a 3 portions de 20 mètres sur lesquels on tourne, donc tous les 3 ans, on fait une rotation comme ça, quoi. Et donc après, pour rentrer un peu plus dans le détail de trucs, par rapport au risque sanitaire, ce que je disais tout à l'heure, que c'était surtout dans les selles, l'urine présente beaucoup moins de risques, sauf si vraiment y a quelqu'un qui est vraiment malade, qui a je sais pas quoi, et puis qu'il peut avoir son urine contaminée par je sais pas quoi, sa maladie, quoi. Mais en gros, l'urine, on pourrait l'utiliser pour arroser les plantations sans souci.
D'azote, hein, je crois.
Ouais. Donc, alors après, c'est comme tout. Il faut maîtriser les quantités aux endroits donnés. Moi, personnellement, ça fait quelques années que je bosse donc, pour la cacaravane. Je connaissais rien de tout ça. Et en fait, je me suis vraiment passionné pour tout ça parce que je me rends compte qu'actuellement, on a une agriculture industrielle, conventionnelle, qui marche un peu sur la tête et puis beaucoup de gens se posent des questions. On va faire péter des usines comme à ZF parce qu'on veut produire je sais pas quoi, de l'azote ou des trucs comme ça, des engrais chimiques, quoi. Et à côté de ça, on fait caca dans de l'eau potable et puis on essaie de traiter ça par la suite. C'est dommage.
Du gâchis d'eau propre. Accessoirement, on désingue des arbres aussi pour s'essuyer les fesses.
Oui. Non, mais après, bon, il y a le papier recyclé qui existe. Si on commençait à partir dans toutes ces histoires-là, on peut en parler longtemps et puis refaire le monde. Mais bon, je pense que il y a quand même des solutions qui sont à trouver. Moi, ce qui me plaît dans les toilettes sèches, c'est que la mise en œuvre, elle est hyper simple. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il y avait un colloque, j'entendais ça, parler de ça à la radio. Alors, ils essayaient de trouver les toilettes du futur. Alors, ça m'a un peu énervé, mais ils cherchaient les toilettes. Alors, c'était...
Ils désintégraient le caca au laser, non, c'est ça?
Ouais, non, mais je sais pas. C'est bourré de technologie. Et puis, c'est du genre pour mettre ça dans des pays du tiers-monde, entre guillemets.
Une puce RFID par Colombin.
Ouais, voilà, c'est ça. Pour faire les choses bien, c'est pas compliqué. Vous prenez un seau, vous mettez du copeau dedans et puis ça suffit, quoi. Et puis si tu veux être à l'aise, eh ben, tu mets une assise, c'est une planche et un trou. Et puis si tu veux être intime, tu mets quatre planches autour. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. La mise en œuvre est à la portée de tous. Et puis dans la gestion des litières, c'est aussi pas très compliqué à comprendre et à bien faire. Voilà. C'est simple, ça marche. Pas besoin de chercher.
Là-dedans, il y a quelque chose qui me plaît aussi beaucoup. On est dans ce qui s'appelle maintenant le low-tech. C'est-à-dire, tu as tout le mouvement hyper technologique qui veut à tout prix technologiser tout et n'importe quoi, hein, à mettre presque une puce RFID sur chaque patate dans le champ. Et tu as un autre mouvement qui, au contraire, va redécouvrir d'anciennes techniques, technologies, beaucoup plus modérées en termes de consommation énergétique, beaucoup plus naturelles en termes de bilan de fonctionnement, on va dire. Alors certes, qui casse un peu cette dynamique de vitesse permanente qu'on a toujours, faut que tout aille vite et tout et tout. Non, donc le mouvement low-tech, c'est plutôt un mouvement qui revient un peu à des cinétiques humaines,
des fonctions beaucoup plus abordables pour tout le monde.
C'est une autre manière de dire réinventer la roue.
Pourquoi pas ? Mais c'est surtout, on a cette perte de la mémoire de ces technologies assez robustes, dont tout est fait pour qu'on les oublie, pour qu'on achète de la technologie à la place.
Val, pour ton étude et ton calcul, qu'est-ce que tu vas demander à Charlie comme données ? C'est-à-dire l'essence qui a été dépensée par la cacaravane pour venir jusqu'ici ? Et ce matériau-là, ces copeaux de bois, c'est gratuit ou on vous les vend ? Faut quand même aller les chercher aussi, donc on dépend un peu de carburant pour aller chercher ça. Mais ça n'a pas l'air hyper énergivore comme activité. Après, il faut ramener les litières à votre zone de maraîchage, qui donc ne doit pas être très très loin non plus.
Nous, on est basé à La Riche, donc c'est de l'autre côté du Cher, quoi. Par rapport au Caire, c'est pas là où on va faire le plus de route. Je sais même pas en kilomètres, mais ça doit être 3-4, j'en sais rien moi.
Donc le moyen de transport, ça doit être un utilitaire, un véhicule utilitaire léger, diesel. Et en fait, la question que, dans ce que tu fais, moi, tout ce que je vois principalement, c'est les impacts évités. Ces impacts évités vont être déjà la consommation d'eau qu'il n'y aura pas, ou très 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 faible. Donc ça c'est important. Il y aura le traitement des eaux usées. Pour quantifier la pollution des eaux usées, souvent on utilise deux notions qui sont la DBO5 et la DCO. Demande chimique en oxygène et demande biologique en oxygène, qui caractérise les pollutions au type biologique ou chimique d'une eau et qui va dire quel type de traitement on va lui faire. Et ce traitement va bien sûr produire des émissions de CO2. Donc là aussi on aura des impacts évités par rapport au traitement des eaux usées. Donc deuxième impact évité qui seront calculés et mis en évidence. Et le troisième impact évité, là qui dépend de la sensibilité du milieu, tu l'as bien abordé tout à l'heure, c'est celui où on va substituer l'engrais chimique par cet engrais naturel, par ce compost terreau naturel. Et là aussi on va avoir un impact évité qui va être la fabrication de l'engrais chimique qu'on ne va pas faire, et qui va être remplacé. Ça, c'est un impact évité aussi. Mais en même temps, il est quand même tributaire de la sensibilité du milieu. Par exemple, je pense que faire ça en Bretagne, ça sera plus difficile que de le faire en Touraine. Parce qu'en Bretagne, les émissions diffuses de lisier ont entraîné une telle pollution des eaux en nitrate que maintenant, à la limite, l'épandage est strictement réglementé. Et ça a créé une telle pollution des eaux que la France est sous injonction européenne depuis 2014 pour non-respect de la réglementation européenne.
C'est un rapport avec les gens qui s'empoisonnent avec les algues vertes en se baladant sur la plage
et... Totalement. L'état sanitaire des eaux en Bretagne est catastrophique depuis 30 ans, on va le dire. Donc toutes les marées vertes, toutes ces poussées d'algues sont complètement liées au fait qu'on aille mettre dans l'estuaire des quantités phénoménales d'azote et de phosphore qui vont servir de substrat, qui vont permettre à ces algues de se nourrir.
En fait, là, ce que je suis en train de piger de ce que tu dis, c'est qu'on pourrait presque faire un calcul, pas à l'inverse, mais en positif. C'est-à-dire qu'il faudrait presque calculer, si Ocar avait continué à utiliser d'horribles chiottes chimiques, tout ça, ça génère des pollutions épouvantables. Il faudrait presque faire un comparatif quand on utilise des chiottes chimiques et quand on utilise des toilettes sèches, qu'on voit bien la différence, enfin ce qu'on a épargné en fait.
Je saurais facilement calculer, c'est les trois impacts dont je t'ai parlé, par rapport à un traitement, par rapport à l'épandage et par rapport à la consommation d'eau. Maintenant, sur la comparaison avec les toilettes chimiques, je ne sais pas si je trouverais les éléments de comparaison fiable. Tandis que sur la première type de comparaison, j'ai des éléments fiables qui vont me permettre de calculer. Sur les toilettes chimiques, si je trouve des infos, je ferai la comparaison, mais après, je ne vais pas non plus me mettre martel en tête.
Pour reprendre ce que tu disais aussi, mais j'ai le même raisonnement, c'est sur le fait, en fait qu'il y a toutes ces matières organiques qui sont gaspillées alors qu'elles pourraient être recyclées, réutilisées. Là, je me suis rendu compte, par exemple, que sur le marché à côté de chez moi, les pluches de poireaux, les bouts de choux, les trucs comme ça, ça part à la benne. Je trouve ça épouvantable, toute cette matière organique, donc je la donne à manger à mon jardin et à mon composteur. Est-ce qu'on pourrait faire une espèce de calcul vertueux? Parce que ils fabriquent aussi du terreau, quoi. Au bout de 3 ans, c'est du terreau. Donc est-ce que ça fait pas rebasculer notre bilan carbone d'un côté positif?
C'est ce que j'ai parlé, ce dont j'ai parlé en parlant des impacts évités par rapport à l'épandage d'engrais chimiques. On va faire le terreau à la place des engrais chimiques. Donc là, on a des impacts évités. Parce que tu dois avoir une idée des quantités que tu réparties par mètre carré, à peu près.
Alors là, non, parce que ça, c'est le maraîcher qui fait ça. Mais...
Tu peux avoir une idée. Donc il faut juste lui poser la question.
Encore une fois, lui, il l'utilise pour ses haies. Donc je sais qu'il achète de l'engrais comment dire, bio, mais c'est du fumier animal, quoi. Mais le fumier humain, aujourd'hui, t'as pas le droit. Lui, il saurait dire combien il utilise pour son champ. Moi, je sais pas. Par rapport aux émissions évitées, ouais, de gaz, ça m'a fait penser à un truc par rapport à la gestion du compost. Hein, mais même quand tu vas ramasser des plures de poireaux, etc. Un détail qui peut mettre la puce à l'oreille pour savoir si ton compost travaille bien, c'est justement s'il se met pas à suinter et à fumer. Là, s'il suinte et qu'il fume, c'est que bah il est pas assez aéré et qu'il manque un peu de paille, quoi. S'il se met à fumer, en gros, bah il dégage
du méthane principalement.
CH4.
Oui, du méthane, ouais. Parce que en fait, on est en condition anaérobie et là, on va avoir des bactéries méthanogènes. Certains ont du gaz, hein, comme ça, avec des tas de paille, ils arrivent à s'alimenter en gaz. Hein. Donc, voilà. Pour revenir au compost de tout à l'heure, dont tu me parlais, là aussi, il y a beaucoup d'impact évité. Bah, figure-toi que je vais travailler avec Zero Waste, Touraine, pour faire justement établir un bilan carbone sur les diverses techniques de compostage et de gestion des déchets comparativement. Donc ça va être un petit boulot qui va me prendre un peu de temps quand même pour être assez fiable, mais là aussi il va y avoir des petits résultats qui seront intéressants justement.
Bah, peut-être qu'en fin de festival, Valérie, tu viendras faire un bilan peut-être avec Charlie pour évaluer où tu as déjà une idée des quantités.
60 litres par poubelle, 18 poubelles par soir. Hein.
Oui, voilà. Après, il faut le gazole pour les allers-retours et le machin pour faire 6 km.
Les véhicules légers, le poids, moi j'ai tout ce qu'il faut. En fait, la quantité de copeaux, alors, les limites que tu vas utiliser.
Ça, je ne saurais pas trop le quantifier non plus, mais je sais que je peux te dire qu'est-ce qu'on utilise. Je pense que dans les 60 litres, t'as bien 40 litres faciles de copeaux. À la louche, quoi, j'en sais rien.
Ensuite, je trouverai la densité des copeaux et puis hop, j'aurai mon poids. En fait, c'est un poste assez facile à travailler, mais il est intéressant grâce à ce calcul des impacts évités que je vais faire.
Le concept d'impact vertueux est en train de se dessiner dans ma tête.
Dans le jargon, on dit des impacts évités. C'est des process qui sont vertueux qui vont nous donner des impacts évités.
On apprend plein de trucs en allant aux chiottes. Charlie, alors là, de manière plus pragmatique, si on veut faire appel au service de la cacaravane de Tours, c'est quoi? C'est un site internet?
www.cacaravane.fr et puis il y a toutes les infos dessus.
Il n'y a pas besoin d'être un gros festival. Voilà, si je fête mon anniversaire dans un champ et que j'ai besoin de une ou deux cabines, voilà, on peut vous appeler aussi pour ça. Vous ne faites pas que les gros trucs.
Bon, bah, on est une petite asso. Hein. On ne peut pas couvrir des énormes événements, mais on a quand même de quoi couvrir. On couvrait les années précédentes les 10 et 20 km de Tours, qui était un gros événement pour nous, où on mettait presque une trentaine de cabines, des urinoirs, voilà.
Et au minimum?
Ah bah une, là j'en ai monté une tout à l'heure.
C'est possible aussi, quoi.
Généralement, ça se goupille pas trop mal, parce qu'on a les périodes un peu creuses, où c'est plutôt les périodes où on nous demande peu de cabines. En août, par exemple, il n'y a pas trop de festivals en Touraine. On est plutôt sur une période creuse. Et puis, c'est la période où les gens font, je ne sais pas moi, des fêtes privées chez eux.
Okay, bah c'est super. Et puis, encore merci hein, pour ce confort. Très apprécié.
De rien, pas de souci. On est là pour ça, quoi.
Thank you. Salut Val.
Salut JBD.
Nous voici quelques mois après la 34e édition de Quart de Tour. Et tu as eu le temps de faire le calcul de notre opération au carbone. Et te voici donc avec le rapport final.
Oui, oui, oui. On a réussi quand même à obtenir des chiffres intéressants sur le bilan carbone du festival au Quart de Tour. Avant, je voudrais revenir quand même sur le bilan carbone pour rappeler ce que c'est. Hein. Un moyen pour évaluer ces enjeux environnementaux via la mesure des émissions de dioxyde de carbone, c'est-à-dire de gaz carbonique, qui peut être produit par l'organisation et la réalisation du festival. Donc, un bilan carbone, alors comment transformer cet événement en des tonnes de CO2 ? Eh bien, il s'agit simplement d'évaluer les déplacements des festivaliers, leurs moyens de déplacement. Il s'agit aussi d'évaluer tout ce qui est approvisionnement en nourriture, en boisson, et puis de voir les émissions de CO2 associées à la fabrication de ces produits. Il faut voir aussi les émissions liées à la logistique, c'est-à-dire le transport des équipements, même des fois la fabrication des équipements. Il y a tout ce qui est consommation d'électricité, de gaz. Donc tout ceci est mesuré, évalué à partir de factures, à partir d'enquêtes sur le terrain. Et ensuite, on transforme des kilogrammes de, par exemple, de riz ou des litres de bière en kilogrammes de CO2 émis par rapport à leur fabrication et le transport et leur utilisation.
Alors Val, je te pose la question un peu brutalement. Est-ce que c'est polluant d'aller s'amuser au Quart de Tour ? Est-ce qu'au Quart de Tour est un festival qui impacte notre biotope ? Si oui, dans quelle mesure ?
Eh bien, le résultat montre que non, le festival au Quart de Tour est un festival, on va dire, qui a un faible impact sur l'environnement en termes d'émissions de CO2 globales, en valeur globale, absolue, puisque nous sommes de l'ordre de 172 tonnes de CO2. Sur l'ensemble du festival, mais aussi c'est un festival à faible impact en termes d'émissions de CO2 en valeur relative, donc on exprime les résultats en grammes de CO2 ou en kilogrammes de CO2 par festivalier, ce qui est aussi un moyen intéressant de voir l'impact d'un festival, mais par festivalier. Ça permet de comparer des festivals, ça permet d'avoir un meilleur critère pour se placer sur une échelle en termes d'émissions. Et donc, l'impact est de l'ordre de 8,8 kg sur le festival, 8,8 kg de CO2 par festivalier. Et ça, c'est un impact faible, puisqu'il est généralement admis qu'en France, l'impact moyen par festivalier est entre 10 et 30 kg de CO2 par festivalier en fonction du festival. Au quart, à un bilan carbone, je ne vais pas dire très satisfaisant, parce qu'il y a encore des choses à faire, mais relativement satisfaisant. C'est lié à différents aspects du festival, hein, qui sont assez importants. Bon, c'est un festival de proximité, puisqu'il est quand même bien desservi par les transports en commun, malgré l'importance des déplacements en voiture. Donc c'est un festival de proximité donc, qui entraîne peu de déplacements, même s'ils sont en voiture, les déplacements ne sont pas très distants, même si ça vient de Paris, de Nantes, mais on abordera ce point-là plus tard. Il y a aussi le fait que, bon, il n'y a pas de camping formellement autorisé, donc là aussi, en termes de logistique, les impacts sont beaucoup plus faibles, puisque les festivaliers, pour tout ce qui est nourriture et boisson, donc vont se nourrir uniquement pendant la durée du festival, et il n'y aura pas aussi tous les approvisionnements nécessaires pour le camping, et aussi donc toute la production de déchets, qui en fait c'est le principal aspect qui a un impact environnemental important sur un festival. Bon, je termine sur les points forts. Bon, il y a aussi le fait qu'il y a l'utilisation des toilettes sèches aussi, qui a un impact favorable sur l'environnement, puisque le traitement des eaux usées se fait d'une manière complètement différente, avec un impact sur le bilan carbone plus faible. Il y a aussi quelque chose d'assez étrange, c'est que le facteur d'émission de CO2 de l'électricité en France au mois de juin 2019 a été un des plus faibles depuis que ce facteur d'émission est mesuré par EDF, en raison d'un très fort approvisionnement en électricité éolien pendant cette période, donc qui fait que le coût de l'électricité et surtout son facteur d'émission était beaucoup plus faible qu'un 100% nucléaire ou qu'un mix nucléaire avec d'autres sources d'énergie provenant d'Europe.
Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'au mois de juin, il y a eu beaucoup de vent, Donc ça a fait de l'électricité pas chère.
Disons que ça a fait de l'électricité pas chère et EDF en a profité pour que, au lieu de faire tourner ses réacteurs, il faut la consommer. On pourrait mettre des batteries, mais
il n'y en a pas. Le stockage, c'est un gros problème.
Il n'y en a pas. Hein. Donc voilà. Et donc, cette électricité qui est absolument tout de suite disponible, bon, il faut la consommer. Ce qui fait que, aussitôt, les prix du marché diminuent très fortement. Et les fournisseurs de notre énergie, nos EDF ou d'autres, eux achètent cette électricité sur le marché qui est à très bon marché, plutôt que d'utiliser leurs installations. Ce qui fait que l'électricité est décarbonée. Eux, ils vous la vendent au même prix, même s'ils l'ont acheté moins cher. Attention, il y a ça. Voilà, et ça donne un facteur d'impact, un facteur d'émission de CO2 du mois de juin 2019 pour l'électricité produite en France, enfin distribuée en France, très faible.
C'est génial, donc les guitares électriques qui jouaient très très fort sur des gros amplis et tout, ça n'avait pas un impact environnemental aussi épouvantable que si le festival avait lieu en hiver.
C'est clair, mais... De toute façon, le poste de consommation électrique sur le festival est l'un des plus faibles. Hein. Peanuts, dans le bilan carbone, la consommation d'électricité. Puis voilà, donc les principales sources de bénéfices dans l'organisation du festival qui a permis d'avoir ce bon résultat. Mais il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers.
Non, non, au quart de tour, on ne va pas s'endormir sur nos écolauriers. L'édition 2019 a généré 172 tonnes de CO2, mais on vous le dit les amis, on peut encore faire mieux ou moins pire en ne prenant pas la voiture pour aller au festival, si on a le choix évidemment, mais mieux vaut aller à Oukar en tram ou en vélo. On en reparle au prochain et dernier épisode de notre saga Au Carbone, très bientôt sur cette même antenne. Et en attendant, vous pouvez légèrement alourdir votre bilan carbone en retrouvant cette série Au Carbone sur notre site, polymix-et-la-voix-off.com, ou moyennant quelques grammes de CO2 supplémentaires, vous pouvez aussi vous abonner au podcast. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.